Bonjour, bienvenue dans Apple Différemment, Apple à Différemment, votre podcast sur l'écosystème Apple. Et je suis aujourd'hui enchanté de réaliser l'enregistrement avec Audrey Coulot, formatrice, autrice, youtubeuse Apple. Comment vas-tu, Audrey?
Salut Matt, ben écoute, ça va. Tu me présentes toujours comme si j'étais une invitée exceptionnelle, alors que je suis là tout le temps, tu sais, je m'agrippe.
Ben en fait...
ça me fait trop marrer.
Ouais, mais en fait, à mes yeux, t'es exceptionnel. Puis ensuite de ça, c'est pour que les gens qui rattraperaient le podcast pour la première fois sachent qu'on est avec... Et puis, tu sais, dans les fondamentaux, moi, il faut aussi que je me présente. C'est Mathieu, alias prof du web, créateur de podcast et fanboy. On a dit qu'on n'utilisait pas fanboy parce que ça pouvait être péjoratif. Alors, amateur des produits technologiques de la pomme, on va dire ça comme ça. Audrey, comment ça va? Alors d'abord, j'ai deux sujets, parce qu'on se demande toujours comment on va au début de l'émission, j'ai deux sujets. Le premier, vous avez eu de la neige en Bretagne, alors c'est un événement. Alors, je sais pas comment t'as vécu ça, comment ton chien a vécu ça, ta compagne, ainsi de suite, vous avez vécu ça. As-tu perdu ton jardin, ton potager? Explique-nous tout, là. Parce que nous, au Québec, on connaît pas ça beaucoup, la neige, puis on veut comprendre.
Eh ben écoute, par une nuit d'hiver, la neige a commencé à tomber, et ça a tombé toute la nuit, donc le matin, le jardin était tout blanc, la campagne était toute blanche, et il y avait quand même, je dirais, 5 bons centimètres, chose qui n'est pas habituelle chez nous. On n'avait pas eu ça depuis 2013, donc tu vois, c'est quand même assez rare.
Ouais.
Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait super froid cette semaine-là. Alors quand je dis super froid, pour nous, en Bretagne, t'es en dessous de zéro, il fait super froid.
Ouais.
Et il faisait quand même moins 5 à peu près, ressenti parfois moins 10. Moi, je suis près de Saint-Malo. Et en fait, écoute, la neige, elle a tenu. Ce qu'on ne connaît pas, parce que d'habitude, la neige fond tout simplement dès le lendemain, ça devient de la boue. Enfin, voilà. Alors que là, on a vraiment eu, sur les bords des routes, de la neige, des petites, pas des grosses couches de neige, mais voilà, c'était marrant, en fait, de voir les routes déblayées et puis la neige en bord, un peu comme on voit chez toi, bien sûr, hein, à un degré beaucoup, enfin, supérieur. Mais c'était trop bien. On s'est trop amusé, comme des fous, dans la neige. On a fait des batailles de neige. Enfin, ça nous a fait une grosse bouffée d'oxygène par rapport à la situation actuelle nous, on a le couvre-feu à 18h, alors on peut même pas aller se balader le soir. Enfin, c'est chiant, quoi. On est là à tourner en rond. Donc cette neige, non mais c'est vrai, cette neige, elle est vraiment venue comme une bouffée d'oxygène. Ça nous a fait trop du bien de profiter, même dans le jardin. En fait, c'était trop bien. Et on n'a pas perdu trop de plantes, donc c'est cool.
Alors, tu sais que nous, au Québec, lorsqu'il neige en France, notre plaisir coupable, c'est d'enregistrer ou de regarder les journaux télévisés et de rire de vous. Et de rire. Il y a deux, trois aspects qui nous font rire. Parce que nous, quand c'est 5 cm, c'est notre quotidien. On a un minimum 5 cm par jour. Quand c'est des grosses bordées de neige, c'est du 30 cm. Puis après ça, on appelle ça une tempête en haut de 30 cm, là, pour vous le dire. Et c'est surtout les journaux télévisés. Parce que tu sais que maintenant, les journaux télévisés, c'est plus des émissions spectacles, hein, où on met des choses dramatiques, où on amplifie certains trucs. Et c'est juste fabuleux de regarder les journaux télévisés de France quand il y a eu de la neige. Alors moi, c'est notre petit plaisir coupable. On y goûte beaucoup plus que partout ailleurs, probablement dans le monde. Peut-être pas en Russie, effectivement. Mais on y goûte beaucoup, puis les pays scandinaves. Mais on y goûte beaucoup plus que vous en Europe. Et quand ça tombe chez vous, ben on se fait un petit plaisir, on se fait un malin plaisir de rire un peu de vous. Mais c'est très amical et c'est toujours dans la bienveillance. On était prêt à vous envoyer notre armée canadienne. Hein. Par moment, quand on écoutait les journaux télévisés, on se disait que là, fallait vous aider.
Fallait intervenir.
Hey, deuxième sujet, Audrey. Qu'est-ce qui se passe? T'as encore acheté des produits Apple? Puis je dis encore, parce que avec un clin d'œil, c'est pas vrai que t'achètes tout le temps des produits, mais là, t'as acheté un produit qui est différent de ce que tu achètes habituellement, c'est pas vrai. C'est un produit différent pour lequel t'as jamais eu ça chez toi, je pense, un assistant connecté, un petit HomePod mini.
Ouais, c'est ma première enceinte connectée.
Voilà.
Alors moi, je prends toujours les choses. Tu vois, je commence à peine à me mettre à la domotique. Il y a des choses sur lesquelles j'ai volontairement un peu de retard.
Ouais.
Parce que il y a eu quand même toutes ces histoires d'écoute et tout. Voilà. Donc j'ai quand même pris des HomePod mini, donc des produits Apple. Je croise les doigts pour qu'il ne nous écoute pas à notre insu. En même temps, on saura peut-être jamais, mais je crois quand même que là-dessus, ils sont. J'espère qu'ils sont honnêtes. Et en fait, bah écoute, ma compagne, donc Anne, a cassé l'enceinte. En fait, on a une. J'explique le pourquoi. On a une télé Sony dans notre salon qui date de 2009 ou 2010, hein, qui est pas toute jeune, mais qui fonctionne toujours, donc aucun souci. Sauf que les haut-parleurs des télés à écran plat, au bout de quelques années, ça commence vraiment à être mauvais au niveau son. Donc j'avais eu une enceinte AirPlay, là, quasiment la première, une Philips, il y a franchement plus de 10 ans. Et donc on l'utilisait en AirPlay avec les iPhones et tout. Elle était connectée à la télé avec une prise jack, donc tout allait bien. Et malheureusement, Philips a arrêté le support de son application pour iPhone et pour cette enceinte.
Ouais.
Du coup, plus moyen de la connecter à mon réseau Wi-Fi quand j'ai déménagé. Donc malheureusement, elle ne marchait plus qu'avec le jack, avec une prise, avec un câble, quoi. Et puis l'autre jour, Anne l'a fait tomber, donc elle s'est bien cassée au niveau de la prise jack, donc plus du tout utilisable malheureusement. Elle va repartir en recyclage. Et là, on s'est retrouvé donc avec le vieux son pourri de la télé, et on s'est dit bon, il va falloir faire quelque chose.
Alors, moi, faut pas me dire ça. Bah non, c'est ça que je me disais. Il va falloir avoir une solution pour pouvoir avoir un meilleur son. Audrey, voyons, qu'est-ce qu'on fait finalement?
Tiens, qui fabrique des petites enceintes sympas, pas trop chères, qu'on peut mettre en stéréo en plus? Et dans le même temps, j'avais aussi besoin d'une petite enceinte dans mon bureau, puisque comme j'ai changé, je suis passée du MacBook Pro au Mac Mini, le Mac Mini a un tout petit haut-parleur. Qui est largement suffisant pour les sons système où tu vois
notifications, ouais, c'est ça.
Siri, voilà, des trucs, des petits trucs comme ça, ça suffit. Par contre, dès que tu veux écouter de la musique ou dès que tu veux regarder une vidéo, c'est plus du tout suffisant. C'est vraiment un petit haut-parleur aigu, enfin, c'est pas agréable. Donc, j'ai commandé un HomePod mini pour mon bureau. J'en ai pris un pour le rez-de-chaussée, pour du coup aller avec la télé. Et j'ai quand même essayé le son parce qu'on peut coupler deux HomePod mini pour faire un son stéréo. Et bon, clairement, pour le salon, il faut deux HomePod mini pour faire un bon son stéréo et pour avoir quelque chose de correct. Si vous êtes à 2-3 mètres de la télé, c'est bien. Au-delà, faudrait plus des HomePod de taille classique. Mais en tout cas, super petit produit. Sur l'iPhone, l'Apple TV, ben nickel. Franchement, ça marche
super bien. Aucune latence?
Alors justement, j'avais peur de ça. Et ben écoute, avec l'Apple TV, aucune latence. Avec l'iPhone, pareil. Les vidéos YouTube, ça passe bien. Enfin, il n'y a pas de différence entre le mouvement des lèvres des gens et puis ce qu'on entend. Donc c'était surtout ça qui me faisait un peu peur. Et le seul problème que j'ai, c'est avec le Mac, celui que j'ai acheté pour mon bureau, le petit HomePod mini pour le bureau. Tu vois, tu mets de la musique en lecture avec l'application musique d'Apple. T'as deux petites secondes de décalage entre le moment où tu cliques et le moment où ça se met en route. Et quand tu fais pause, surtout parce que tu veux prendre un coup de fil ou quoi, et ben là, t'as 2-3 secondes aussi avant que ça se mette en pause. Donc, il y a un peu de latence avec le Mac que je n'ai pas avec l'iPhone ou avec l'Apple TV.
Bon.
Donc,
Peut-être que ça va se régler avec des mises à jour. Voilà, c'est ça. Alors, satisfaite.
La prochaine mise à jour... Ouais, et en plus, j'ai appris que la prochaine mise à jour de macOS allait permettre d'utiliser deux HomePod mini sur un Mac en stéréo, avoir vraiment l'option stéréo qu'on n'a pas encore. Donc, peut-être que ça va apporter aussi une résolution de ce problème de latence, quoi. Donc, on verra.
Et donc,
je suis super contente pour le prix.
Ouais, c'est ça. Puis je soupçonne que tu vas acheter un deuxième HomePod mini pour ton Mac, finalement, si on a le son en stéréo à un moment donné pour les Macs.
Non, je suis pas sûre. Non, j'en ai déjà commandé 3, là.
Retenez.
En fait, pour le... Ouais, ne prenez des notes. Mais non, en fait, pour le bureau, clairement, je l'ai juste à côté de moi, c'est largement suffisant au niveau du son, quoi. Pour la télé, c'est différent. Tu regardes des films, tu regardes des documentaires et tout, c'est bien d'avoir un bon son. Pour le bureau, un seul, ça peut suffire pour une toute petite pièce, quoi.
Ouais, absolument. Ce que les critiques en disent, c'est que ça a l'air quand même assez, assez véloce pour le par rapport à sa grandeur puis par rapport à la compétition, je dirais ça. Là, ça a l'air assez enthousiasmant. Bon, ben écoute, très bien. Ça fait plaisir de voir que ben tu t'y mets aussi au HomePod Mini puis que tu te mets à la domotique. Des futurs achats de produits domotiques, pas encore peut-être? Des lumières ou...
Il y a 2 heures, j'ai acheté... Ah là là, petit peu piège. Il y a 2 heures, j'ai acheté un boîtier pour rendre un interrupteur connecté.
Ok.
Pour pouvoir allumer, parce que j'ai 3 lampes. En fait, quand je me gare sur mon parking,
okay,
et qu'on est en plein hiver et qu'il fait nuit le soir, il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a rien. Moi, j'habite à la campagne, donc on est vraiment dans le noir, on prend nos téléphones, on galère et tout, le temps d'arriver à la maison pour allumer les lampes extérieures. Donc j'ai acheté ce petit boîtier qui se met derrière l'interrupteur dans la maison et qui permet donc de transformer ton interrupteur en interrupteur connecté et de pouvoir du coup, grâce à HomeKit, allumer tes lumières depuis ta voiture grâce à ton iPhone. Ce qui va être super cool parce que du coup on va arriver, hop, ça va, on peut même automatiser pour que ça s'allume.
Voilà, ben ouais, c'est la bonne idée.
Ouais, ça y est, je commence à m'y mettre et du coup, voilà, je vais recevoir demain, on va voir si ça marche. Pour les HomePod Mini, je voulais dire que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne de déballage et puis de mini test avec j'ai comparé avec une petite enceinte JBL que j'utilisais jusqu'à présent. Et pour le même encombrement, il n'y a pas photo. Entre les deux, le HomePod Mini a vraiment des super... Enfin, il a vraiment des bonnes basses. Le son est ample et tout. Enfin, c'est vraiment... Le son est très bien calibré, quoi. Pour une enceinte de 8 cm de haut, quoi.
Ouais, c'est ça. En plus, ils ont été avec de la diffusion passive. Tu sais, ils ont pas de Twitter. C'est vraiment juste un petit haut-parleur là. Ça a bien été étudié effectivement. Ben regarde dans le rayon des produits connectés pour aller avec Apple. J'ai testé plusieurs produits connectés. Bon, je dois te dire que pratiquement toutes mes ampoules à la maison, j'ai des Philips Hue, mais quand même Philips, c'est assez cher, hein. C'est des produits de qualité, mais chers. Et dernièrement, j'ai essayé la compagnie Meross, M-E-R-O-S-S, qui est une compagnie qui fabrique des produits HomeKit, compatibles HomeKit. Et franchement, je vous recommande chaudement le produit. Une ampoule en couleur coûte à peu près 3 fois moins cher qu'une Philips Hue en couleur. Alors si vous avez besoin d'ampoules Meross, ils font aussi des barres d'alimentation que tu peux déclencher avec Siri. Ils font aussi des prises connectées. Ils font aussi des prises murales connectées Meross. Alors si le passé est garant de l'avenir, on va dire, avec mon ampoule, moi en tout cas l'ampoule, je vous la conseille fortement, celle qui est compatible HomeKit. Fonctionne du feu de Dieu. Et puis, pas besoin de hub, parce qu'elle est compatible HomeKit, fait que le hub qu'il va utiliser, ça sera l'Apple TV que vous avez à la maison pour HomeKit, fait que ça peut valoir la peine. Puis pour, je vous dis, $30 canadiens, j'ai eu 2 ampoules en couleur, ça coûte $60 canadiens pour une Philips Hue en couleur habituellement.
Ouais, c'est un sujet hyper intéressant, je pense que ça se développe de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de fabricants qui adopte le protocole HomeKit, donc les prix vont forcément baisser. Je pense qu'un jour, on fera un épisode sur ce sujet, parce qu'il faudra qu'on trouve un pro de la domotique pour venir parler avec nous. D'ailleurs, si le pro de la domotique nous écoute, contactez-nous. Et donc, ça serait vraiment bien de faire un épisode là-dessus. Moi, je suis totalement novice. Là, tu vois, j'essaye mes premiers trucs, mes premières automatisations, enfin... tu vois, par exemple, un truc qui m'a un peu énervé, c'est que j'ai regardé les automatisations qu'il y a pour le HomePod Mini, et je voyais qu'on peut programmer, par exemple, à telle heure, tel jour, qu'ils mettent un morceau de musique en route. Donc, je commence à régler tout ça, et puis là, je vois, pour utiliser cette fonction, vous devez être abonné à Apple Music.
Bah ouais.
Même si t'as de la musique sur ton iPhone, dans l'application Apple Music que tu as acheté légalement, ça marche pas. C'est quand même dommage. Parce que moi, j'ai toute ma musique en dur, quoi. Enfin, pas en streaming, vraiment en acheté album par album depuis X années. Et tu vois, ce genre de choses, je peux pas le faire. Donc, je trouve que c'était un peu dommage de bloquer cette fonctionnalité-là. Après, peut-être qu'Apple va quand même s'ouvrir un peu avec les prochaines mises à jour, je sais pas. Mais c'est des petites contraintes comme ça où tu te dis, tiens, c'est un peu bizarre, on va pas prendre un abonnement pour écouter une chanson à 9h le matin le vendredi, quoi. Tu vois, c'est...
Ça ressemble à une démarche commerciale, ouais, c'est ça, ça ressemble, ouais. C'est ça. Bon, très bien. On va aller, on va switcher sur les quoi de neuf chez Apple. J'ai été chercher quelques nouvelles qui m'apparaissaient intéressantes, Audrey. Ben, d'abord, la première, c'est qu'on voit dans les benchmarks arriver une évolution du processeur M1. Alors, pour rappel, hein, le processeur M1, c'est le nouveau processeur d'Apple. On a 2-3 épisodes à reculons. Vous pouvez aller écouter ce que c'est comme processeur. Et là, le M1X arriverait. Ce qui me fait penser, en tant qu'amateur de la marque, que ben on devrait avoir des processeurs, une évolution pratiquement à chaque année des processeurs de nos machines. Chose qu'on n'était pas habitué, hein, chez pour les MacBook, pour les Mac, et Mac Mini non plus. Alors, ben, à suivre. Est-ce que ça va faire que le marché de la revente des produits Mac Apple va être moins bon parce que là, à chaque année, il y a des nouveaux produits? Est-ce qu'on peut se fier à ça pour dire ça ou je sais pas, là. Quel est ton avis?
Ben, en fait, on a déjà le cas depuis 10 ans avec l'iPhone qui a un nouveau processeur tous les ans. L'Apple Watch aussi, l'iPad aussi, et ça se revend super bien. Donc, je pense qu'ils vont prendre le même rythme pour leur Mac. Peut-être un peu, j'en sais rien en fait, peut-être qu'ils vont reséparer avec les M1 pour la gamme publique et puis les M1X ou les M2 pour la gamme pro.
Peut-être, ouais.
Je sais pas comment ils vont faire ça, mais en tout cas, je pense que ça va pas empêcher la revente d'occasion, la bonne vente d'occasion, quoi.
Non, effectivement. Puis tu sais, la revente d'occasion des produits Apple, la valeur en fait d'occasion, c'est pas basé seulement sur les nouveautés à chaque année. Puis la désuétude, c'est aussi, tu sais, tout l'écosystème, la réparabilité, ces choses-là. Fait que, ouais, t'as bien raison, bonne analyse. Deuxième truc qui me fait...
Oui. Ouais, j'en profite que tu parles de réparabilité parce que là, Apple est obligé en France maintenant à indiquer l'indice de réparabilité sur les fiches de ses produits.
Juste, ouais.
Donc ça y est, c'est en place, on en avait parlé rapidement. Du coup, par exemple, l'iPhone 12 a une meilleure note que l'iPhone 11. Donc je trouve ça vraiment bien parce que ça va certainement les obliger à rendre leurs produits de plus en plus réparables s'ils veulent atteindre 10 sur 10, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour l'écologie et pour les consommateurs que cet indice soit mis sur les produits.
C'est clair, c'est vraiment une bonne... J'espère qu'on va calquer cette initiative-là au Canada parce que vraiment, il y a beaucoup de produits, de marques, de cochonneries qui sont vendus, puis cet indice-là peut discriminer des fois quand tu veux acheter un produit. Fait que je trouve ça vraiment chouette ce que vous avez en France par rapport à ça. Bon point.
On a déjà les indices de consommation d'énergie pour... Les machines à laver, les frigos et tout ça, t'as déjà de A à...
On a ça aussi, ouais, c'est ça, on a ça aussi chez maintenant, ouais.
Donc ça, c'est bien déjà.
Ouais, effectivement, bon point. Un truc qui me fait suer depuis la pandémie, c'est de porter un masque, et ce qui me fait encore plus suer, c'est de devoir débloquer mon iPhone avec un masque. C'est pénible, j'ai jamais réussi à faire ça à part avec le code au début. Et là, avec iOS 14.5, on va pouvoir, pour ceux qui sont possesseurs d'un Apple Watch, débloquer notre iPhone si l'Apple Watch est activé. Alors, c'est une grande nouvelle. Enfin. Peut-être que c'est trop tard parce que la pandémie va se terminer. Quoique, peut-être, il y a des variants, on ne sait pas. Toi, est-ce que ça te faisait suer beaucoup? Est-ce que tu payes d'abord avec Apple Pay?
Alors oui, et c'est surtout en fait quand je faisais mes courses que je trouvais ça pénible parce que j'ai ma liste de courses sur mon iPhone.
Ben oui.
Je paye avec Apple Pay. Du coup, alors c'était bien parce que dès qu'ils voyaient quand même qu'on avait un masque, ils nous disaient tout de suite payer avec le code, donc on pouvait saisir son code de verrouillage et c'était bon. Là, avec l'Apple Watch, c'est sûr que ça va être encore plus simple. Pour ceux qui s'inquiètent de la sécurité, il faut quand même que votre Apple Watch ait un code. Il faut qu'elle soit en contact avec votre peau, hein, si elle a été... Si elle est pas en contact avec votre peau, ça marchera pas. Par contre, j'ai quand même vu sur un article sur Mac Génération que si quelqu'un a un masque si quelqu'un prend ton iPhone et qu'il est pas loin de toi, il peut déverrouiller ton...
Absolument.
Ton iPhone. Donc, faudra être un peu plus vigilant quand même. Après, je pense que c'est dans le cadre familial, donc il y a pas de risque, mais... Ça laisse quand même une petite possibilité
de fraude ou... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Donc, ouais, on verra.
Bon, on rappelle aussi les gestes barrières là, qui nous protègent de ça. peut-être que d'être à une assez grande distance, ça fait qu'on peut pas forcément le prendre. Bon, bref, moi, je trouve que c'est une bonne avancée. J'ai toujours mon iPhone et je sais toujours où est mon iPhone. Alors, moi, je suis vraiment, vraiment content. Troisième truc où je suis vraiment content ce mois-ci d'apprendre, en fait, de voir... On va parler gestionnaire de mots de passe. Si vous en avez pas un encore, ben ça fait partie des fondamentaux hein, maintenant. Antivirus, gestionnaire de mots de passe, ça fait partie des choses qu'on doit avoir pour notre sécurité. Et ben évidemment, quand vous êtes dans l'écosystème Apple, vous avez un gestionnaire de mots de passe pour iOS, macOS, et ainsi de suite. Mais beaucoup de personnes ont une tablette, un iPhone, et n'ont pas nécessairement un Mac. Et puis, c'est un petit peu problématique parce que lorsque tu travailles à la maison sur un poste Windows, ben tu peux pas avoir tes mots de passe puis les copier-coller facilement. Et là, il y a un plugin qui vient d'arriver pour Google Chrome et Windows qui va permettre, je l'ai pas essayé, je mets juste le lien dans les notes de l'émission, qui va permettre d'avoir tes mots de passe dans Keychain dans Google Chrome.
Les mots de passe du trousseau iCloud, tu veux dire?
Exactement, oui. Excuse-moi. Du trousseau iCloud, oui. Alors, ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Si vous utilisez Chrome et Windows et que vos mots de passe se retrouvent dans votre iPhone et que vous êtes toujours obligé, comme ma conjointe, d'ouvrir votre iPhone, de regarder le mot de passe, de le retaper, ben, peut-être vous pourriez utiliser ce plugin-là pour aller un peu plus vite. C'est un plugin qui n'est pas développé par un tiers, c'est développé par Apple. Alors, vous pouvez aller avec les yeux fermés, je dirais.
Bah, Apple, ils auraient pu jouer là-dessus. Ils auraient pu faire un... Alors, je sais qu'il y avait une version de Safari pour Windows pendant un moment. Je ne sais pas si elle existe encore, mais ils auraient pu justement faire une version Safari pour Windows avec le trousseau iCloud intégré. Ça aurait été plus sécurisant, je pense, pour les utilisateurs. Parce que Google Chrome, c'est moyen quand même.
Ouais.
Mise à jour qui ne partent pas, enfin qui s'entassent et puis tout ce que ça veut te faire installer. Enfin, franchement, moi, j'ai des clients sur Mac qui utilisent Google Chrome et ils ont souvent des ennuis quand même. C'est pas terrible comme navigateur.
Écoute, tu m'offres une transition juste phénoménale. Apple Insider a relayé il y a quelques jours un benchmark, un test comparatif, je dirais, de Chrome et de Safari sur Mac. Et on se rend compte que lorsque vous utilisez Chrome, vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire RAM sur votre Mac. C'est juste délirant. Lorsque vous ouvrez des onglets sur Chrome, ben chaque onglet que vous allez ouvrir va prendre une partie de la mémoire RAM, ce qui fait que plus vous ouvrez d'onglets, plus vous perdez de l'espace mémoire RAM, hein, la mémoire vive qui vous permet d'avoir d'utiliser vos applications plus rapidement, je dirais. Plus vous avez d'onglets sur Chrome, plus vous en perdez, tandis que Safari gère beaucoup mieux sa mémoire que Chrome. Alors, on peut voir que pour un certain nombre d'onglets ouverts, Safari va consommer juste 12 mégaoctets de mémoire RAM, tandis que Chrome, ça va être 290. Même que parfois, il me semble que c'est beaucoup plus que ça, là, quand j'ai quelques onglets d'ouvert, et versus Safari. Fait que, oui, t'as raison, Chrome, au niveau, à tout le moins, de la gestion de la RAM sur son Mac, est beaucoup, beaucoup plus gourmand. C'est pas nouveau, on le savait, mais là, c'est confirmé avec cette petite analyse-là, où on voit un graphique qui est juste phénoménal. Ça fait juste monter chez Chrome, puis ça reste toujours stable chez Safari. Fait que oui, effectivement.
Et puis, je sais pas si tu... En fait, Google, ils ont un peu perdu... En fait, ils ont semé le doute dans l'esprit de pas mal d'utilisateurs qui savent pas, par exemple, faire la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Et il y a plein de gens qui installent Google Chrome sur leur tablette en pensant que sans ça, ils peuvent pas accéder à Google. Et moi, dans mes formations, souvent, je dis aux gens, mais vous ouvrez Safari, on met Google en page d'accueil et c'est pareil. Oui, mais non, je veux Google. Et en fait, les gens, ils comprennent pas. Et comme l'application Google sur iPad, en fait, c'est Google Chrome, mais ils ont un peu perdu les gens, en fait, entre le moteur de recherche et le navigateur. Du coup, il y a plein de gens qui l'installent en pensant que c'est la seule possibilité d'aller sur Google, quoi. Alors, je te parle de gens novices, certes, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et clairement, enfin, Safari, moi, je le trouve déjà pour le trousseau, en effet, je le trouve très bien. Et puis, par rapport aux onglets iCloud, enfin, il y a plein de choses, en fait, qui sont pratiques dans Safari. Mais voilà, bon, après, c'est vrai que C'est bien d'avoir désormais plusieurs navigateurs sur les tablettes pour accéder à certains sites qui ne fonctionnent pas avec Safari, ça arrive encore.
Ouais, tout à fait. Moi, tu vois, j'utilise la suite professionnelle Office 365 pour le bureau. Puis il y a des choses dans Safari qui fonctionnent pas où j'ai besoin absolument d'utiliser un navigateur comme à base Chrome, comme Google Chrome. Mais plus souvent, mes choses personnelles, ça reste sur Safari. J'ai développé ce réflexe-là. Puis je te dirais que Safari, depuis la dernière version de macOS, Big Sur, est vraiment, il y a vraiment monté en gamme, là. Tu sais, le traducteur automatique, tu sais, t'as fait une vidéo là-dessus. Il y a la page d'accueil que vous pouvez programmer avec un background. Bref. Puis il commence aussi, on revoit encore beaucoup de plugins arrivés qui vous permettent, d'ajouter des éléments supplémentaires à Safari. Fait que Safari s'améliore. Moi, je pense qu'il est de classe maintenant à combattre Chrome sur macOS facilement. Là, je vois pas pourquoi je conseillerais Google Chrome à des gens comme toi. Là, je dirais installer Google comme page d'accueil par défaut, puis ça finit là. Vous avez pas besoin de Google Chrome. Je sais pas comment je vais faire cette transition-là. Je parlais que Google Chrome était trop gourmand. Il se pourrait que certaines personnes soient trop gourmandes la nuit. Il est arrivé une personne... c'est une anecdote. Là, c'était pour terminer les actualités. Une anecdote par rapport à une personne qui s'est retrouvée à l'hôpital parce qu'elle avait avalé son AirPod, Audrey.
Ouais, j'ai vu passer ça. Je suis un peu sceptique. Il y a toujours des histoires comme ça qui sortent. Mais tu dis... Bon, après... On est des milliards d'êtres humains, donc on a tous une façon différente de s'endormir. Mais donc là, oui, il a avalé son AirPod en s'endormant.
Ouais.
C'est un peu gros quand même pour. Enfin, une trachée, c'est petit quand même. Je sais pas comment.
Il a dû la sentir passer l'oreillette dans la nuit. Ça, je veux pas croire moi non plus. Mais bref, c'est watch.
Que. Telle que l'histoire était racontée, c'était vraiment... il s'est endormi, il se lève le matin, il cherche son AirPod, il ne le trouve pas, et puis il commence à sentir une petite gêne au niveau de la gorge ou respiratoire, je sais plus, et puis là, il va aux urgences, quoi. Donc, je suis perplexe sur cette histoire, mais ça m'a bien fait rire, d'autant plus qu'il s'en est bien sorti, qu'il n'y a pas eu de soucis, je ne sais pas comment ils lui ont enlevé, mais...
Si
c'était arrivé dans les poumons ou...
Non, c'était pas arrivé dans les... Bon, alors après avoir constaté que le AirPod manquait, il a décidé d'aller à l'hôpital. Ils ont fait des radiographies et puis le AirPod était effectivement dans l'œsophage. Ils ont fait une endoscopie, je le dis bien, et l'écouteur a été retiré, le patient est en santé. Ce qu'on ne dit pas par contre, est-ce que le AirPod fonctionne encore? C'est ce que je veux savoir.
Bah oui, c'est tout l'intérêt de cette news. Ah, dommage.
Effectivement. Bon, on vous avait réservé... Audrey a pensé à faire une émission sur les fonctionnalités et usages préférés d'Apple. Moi, j'ai emboîté le pas, mais j'ai complété sur des fonctionnalités préférées. Bref, je vais...
C'est nos fonctionnalités préférées.
Exactement. Alors, Audrey, vas-y, je te laisse la parole. On va parler de fonctionnalités Apple préférées.
On en fait une chacun notre tour.
Oui, bonne idée. Et vas-y.
Ok. Alors moi, c'est pas dans l'ordre de préférence. Hein, je les ai notés comme ça, telles qu'elles me venaient. Il y a une fonctionnalité que j'utilise tous les jours, mais vraiment tous les jours et plusieurs fois par jour, c'est AirDrop.
Ouais.
Alors c'est une fonctionnalité qui permet de transférer des éléments entre vos appareils Apple sans fil, en direct. Donc c'est hyper pratique. Par exemple. Vous avez, alors, on va prendre un exemple très concret, comme dirait notre ami Guillaume. Je filme un tuto avec mon iPhone XR dans mon petit studio. Donc, je fais ma vidéo et je veux la transférer sur mon Mac. Et ben, au lieu de brancher mon iPhone à mon Mac ou d'utiliser le cloud, je fais partager et j'ai AirDrop et je vois mon iPhone, mon Mac, enfin mes appareils Apple qui apparaissent. Et il suffit d'appuyer sur l'appareil désiré pour que la vidéo soit envoyée sur cet appareil. Et même une vidéo qui fait 3, 4 gigas, 5 gigas, c'est quand même transféré rapidement. Et le tout sans fil. Et pour moi, ça frôle un peu la magie. C'est vraiment génial. Donc c'est une fonctionnalité, si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment de l'utiliser. Si vous avez deux appareils Apple au moins, c'est hyper pratique. Vous pouvez l'utiliser avec vos amis qui ont des produits Apple aussi. Si vous voulez leur envoyer des photos ou tout ça, il faut bien sûr qu'ils soient dans la même pièce que vous. Hein, c'est un transfert local. C'est à la portée du Bluetooth, donc ça doit être 10 ou 15 mètres. Mais ça marche super bien. Voilà, vous voulez transférer la vidéo de la petite dernière à quelqu'un, à un ami qui a un iPhone, et ben vous le transférez en direct comme ça, et c'est super bien, et ça se règle dans le centre de contrôle. Donc
C'est vraiment un usage. C'est vraiment magique, c'est vrai. Moi, je l'ai utilisé, tu vois, en voyage. On a fait une croisière en famille dernièrement, et bon, ben, on n'a pas les forfaits que vous avez en Europe. Alors, tout ce qui est forfait cellulaire lorsqu'on est en dehors du Canada, ça coûte. Ben, d'abord, au Canada, ça coûte très cher, mais quand on fait des voyages, les forfaits coûtent aussi excessivement cher. Alors, évidemment, moi, je suis le bon geek de service. Je me prends ce forfait extrêmement cher-là pour avoir de l'Internet sur mon iPhone partout. Mais évidemment, toute ma famille ne l'a pas fait. C'est des questions de choix. Il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais ce que ma famille faisait, ben, elle avait tout le temps leur iPhone. Le réseau cellulaire était coupé. Mais le Bluetooth fonctionnait, ce qui faisait que lorsqu'ils avaient envie d'envoyer des photos pour parler à des proches ou m'envoyer des photos pendant le voyage pour que je puisse les poster à notre famille autre que ma famille proche, ben je pouvais le faire. Là, mon père avait son iPhone. Dès qu'il prenait une photo d'un élément qui voulait envoyer à un de ses amis, ben je m'en occupais, puis il m'envoyait ça par AirDrop. Alors c'était vraiment super magique, super simple. Et moi, c'était un cas d'usage que j'avais bien aimé en voyage. Et puis évidemment, ben tu sais, partager des choses entre amis lorsqu'on fait des soirées ou des trucs comme ça. Ça va revenir un jour, on va faire des soirées avec des amis d'ailleurs.
Ouais.
Ben on va pouvoir utiliser AirDrop. Mais comme tu dis, l'usage, un des usages intéressants, c'est envoyer à travers ces produits, ben des choses, des fichiers, des images et tout ça. Fait que c'est efficace, c'est fou, hein.
Ouais, moi quand j'écris des articles, je fais des captures d'écran de l'iPad ou de l'iPhone, j'envoie sur le Mac direct pour intégrer ces images dans mon article. Enfin, je me souviens comment on galérait avant, on devait passer par l'application photo, enfin, c'était très pénible le temps que ça synchronise et tout, et là c'est vraiment direct. Alors je sais pas si t'as déjà vu, mais il faut vraiment l'utiliser beaucoup pour s'en rendre compte, mais parfois ça ne marche plus. On comprend pas pourquoi, l'appareil de destination n'apparaît pas. Donc à ce moment-là, soit il faut, si c'est le Mac, il faut fermer sa session et la réouvrir, ou soit en général, si c'est l'iPhone, passer en mode avion et activer ou désactiver le mode avion, et puis ça revient.
Ok, moi
c'est beaucoup plus fiable qu'avant.
Ok, moi j'ai jamais eu ces problèmes-là avec mon MacBook. Par contre, ce que je vois, c'est quand il est en mode veille, c'est sûr que ça fonctionne pas, il apparaît pas. Là. Fait que je peux pas transférer à mon Mac. Ouais, excellent, excellent. Vraiment, AirDrop, un killer feature, comme on dit en français de France. Moi, un élément que j'aime bien, c'est j'ai toujours mon iPad à côté. J'ai l'iPad avec le Pencil. Et quand je fais des captures d'écran sur mon Mac pour le travail, automatiquement, dès que je fais une capture d'écran, l'outil de capture d'écran, vous savez, vous pouvez... D'ailleurs, il y a un livre hein, super intéressant, Audrey, je sais pas si tu le sais, là, qui parle de capture d'écran. Clin d'œil, Audrey vend un livre qui vous explique tout tout sur les captures d'écran. Ben là-dedans, je pense que tu en parles, je me rappelle plus beaucoup, mais lorsque vous faites une capture d'écran sur votre Mac, automatiquement votre iPad s'allume et là il est en mode édition avec le stylo. Alors c'est vraiment vraiment chouette, je trouve cette fonctionnalité là que j'ai dans les captures d'écran. Puis capture d'écran en général, je dirais, est vraiment bien fait sur Mac et sur macOS. Fait que moi c'est vraiment c'est pas une fonction, c'est une fonctionnalité. Je vois la nuance comme ça, où je me dis que je suis content d'être avec. Ouais.
C'est grâce à Sidecar que tu peux
voilà.
Retoucher ta capture sur l'iPad. Mais c'est vrai que c'est hyper pratique. Peut-être qu'un jour on pourra utiliser un Pencil sur le trackpad du MacBook hein, ou sur l'écran directement, mais en attendant, c'est vrai que c'est une bonne solution pour retoucher ces captures qu'on fait sur le Mac pour les retoucher sur l'iPad.
Ouais, absolument. On en a parlé tantôt, Apple Pay, c'est vraiment vraiment une fonctionnalité intéressante. Moi, depuis la pandémie, le plus possible, je fais Apple Pay avec mon Apple Watch, on peut le faire, pour pas avoir à déverrouiller mon écran d'iPhone. Ça change la vie pareil. Hein. Avant, on avait toujours le portefeuille ou ses cartes à traîner plus son téléphone. Maintenant, on prend juste le téléphone puis on tout est bon. On a même les cartes privilèges pour les bonnes compagnies qui l'ont mis dans Wallet. Là. Apple Pay, c'est un incontournable, je pense.
Ouais, en plus, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi où il y a un site où tu peux ajouter n'importe quelle carte de fidélité dans Wallet grâce à ce site. En fait, il te crée un. Enfin, c'est lui, en fait, qui, grâce à ton numéro de carte, et, il t'envoie directement ta carte dans Wallet. Donc, même des services qui n'étaient pas pris en compte, ça marche. Donc, c'est, moi, j'ai toutes mes cartes de fidélité dans Wallet maintenant et Apple Pay. En effet, je ne l'utilisais pas tant que ça, mais depuis que j'ai une Apple Watch, j'utilise plus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un. Sur votre iPhone, vous avez une application qui s'appelle Wallet. Vous allez ajouter votre carte bancaire dans cette application, donc elle est mémorisée. Et en fait, ça transforme votre iPhone et votre Apple Watch en moyen de paiement, puisque vous avez une puce NFC dans vos appareils qui vous permet de faire des paiements sans contact. Et ce qui est hyper intéressant par rapport aux paiements sans contact qu'on fait en France, qui sont limités à 50 €, là, c'est sans limite. Donc vous allez faire vos courses, vous en avez pour 150 €, vous payez avec votre montre ou votre iPhone, et donc c'est vraiment sans contact, peu importe le montant. Donc c'est hyper intéressant.
Ouais.
Hyper pratique, enfin tout bien quoi, pas besoin de mettre son code de carte bancaire, ouais. Pas besoin de toucher le terminal surtout, donc c'est surtout ça.
Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est une question d'hygiène là-dedans, là, en tout cas de salubrité, je sais pas le terme, mais ouais, c'est vrai que maintenant le sans contact paiement, c'est ça marche bien chez nous aussi, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, et puis aussi c'est... Tu sais, c'est distinctif quand un commerce met en avant son logo Apple Pay, tu sais, tout de suite, tu te sens un peu plus en confiance pour la transaction. Je sais pas pourquoi, je préfère voir ça moi aussi.
Ce que je trouve vraiment bien avec l'Apple Watch, c'est que tu peux du coup aller faire une balade en vélo et te dire je vais m'arrêter à la supérette ou à la boulangerie ou quoi, et je peux payer parce que j'ai ma montre, alors qu'avant j'aurais dit non, j'ai pas pris mon porte-monnaie, donc je peux pas. Là, on a vraiment, on oublie presque, on peut oublier son porte-monnaie ou son portefeuille chez soi, c'est pas grave puisqu'on l'a au poignet, même si on prend pas son iPhone. Donc c'est vraiment, sur l'Apple Watch, c'est vraiment une liberté en plus, en fait.
Ouais, clairement. Moi, de mon côté, j'ai un truc qui était, on va revoir des gens dans la maison. Je pense, j'arrête pas de le répéter, mais un jour, on va revivre une vie normale et des gens vont revenir à la maison. Et une des fonctionnalités que j'aime bien, qui est magique pour les gens qui ont des iPhones puis qui le savent pas, c'est qu'on a, on peut envoyer le mot de passe du réseau Wi-Fi à une personne à proximité lorsqu'on est dans son téléphone puis que la personne a besoin du Wi-Fi de la maison. On a juste à ouvrir les réglages, le Wi-Fi. La personne va... Les deux iPhones vont comme communiquer de par magiquement et ça va envoyer directement le mot de passe sans avoir à recopier tout ça. Moi, c'est vraiment une affaire qui jette à terre toutes les invités avec qui je l'ai fait jusqu'à présent.
Mmh. Ouais, c'est génial. C'est vrai que c'est génial parce que ça évite de taper nous... Enfin, je sais pas toi, mais nous, les clés web des box, c'est souvent une chaîne de 9 ou 12 caractères... compliqué à taper, c'est écrit en tout petit derrière la box, enfin, c'est vraiment l'enfer ce truc. Non, le WPS ça marche pas de toute façon avec les iPhones, je crois. Donc on avait en effet pas beaucoup d'autres solutions que de se taper les mots de passe à saisir deux fois, trois fois parce qu'on se trompe toujours, puisqu'on ne voit pas ce qu'on tape.
Ouais.
Donc c'est vrai, c'est l'enfer pour beaucoup de gens. Et là, le partage de mots de passe Wi-Fi, c'est vraiment génial. Et ça, et je rejoins. Avec ce que j'allais proposer après, c'était justement iCloud qui synchronise aussi les mots de passe Wi-Fi entre vos appareils. Donc, si vous connectez chez quelqu'un avec votre iPhone, le mot de passe est transféré sur votre Mac et quand vous retournez chez cette personne avec votre MacBook, par exemple, vous êtes connecté au Wi-Fi directement. Donc ça, c'est génial. Et bien sûr, iCloud, au-delà de tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire les photos, les contacts, les calendriers, ce que j'aime bien, c'est tout ce qu'on ignore, en fait, et dont on se rend compte à l'usage. Par exemple, le fait que quand tu installes une application sur un appareil, sur ton iPhone, par exemple, tu veux l'installer sur ton iPad, soit elle peut être installée de façon automatique, ou sinon, tu sais, au lieu du bouton obtenir, tu as un petit nuage qui te montre en fait que cette application, tu l'as déjà installée ailleurs. Voilà. Donc, tu as juste à appuyer sur le petit nuage. Tu n'as pas ton mot de passe Apple à mettre. Donc, ça, c'est génial. Et c'est aussi grâce à notre compte Apple et notre compte iCloud. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? Il y a les achats, bien sûr, qui sont synchronisés grâce à iCloud. Les mots de passe du trousseau. Donc, ça, c'est vraiment un confort incommensurable d'avoir tous ces mots de passe synchronisés entre ces appareils. Et puis, dans les choses moins connues, les remplacements de texte aussi qui sont synchronisés avec iCloud.
Absolument,
je ne sais pas si tu as déjà fait gaffe.
Oui.
Et il y a plein de petites autres choses. J'aimerais bien trouver, j'ai déjà cherché sur la doc technique d'Apple, mais j'ai pas trouvé. J'aimerais bien trouver vraiment tout ce que iCloud synchronise en vrai. Pas juste les éléments qu'on coche, quoi.
Non, donc, exact. Mais il y a des choses transparentes, tu sais, qu'on prend pour acquis. Mmh. Exemple, quand vous êtes dans iMessage ou ben dans vos SMS sur iOS, ben le fait d'avoir lu ou pas lu un de ces messages est synchronisé. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, on a la petite boule rouge, il y a 2-3 messages. Ben, si vous le lisez sur un appareil, automatiquement, ça va le dire aux autres appareils via iCloud que ça a été lu. Pareil pour les courriels, les mails. Pareil pour ces autres genres de notifications-là. Fait que la synchronisation, tu sais, elle est évidente pour certains produits, puis d'autres, elle est masquée, mais elle est tellement intuitive que tu t'en aperçois pas. Mmh. C'est vraiment juste génial. Fait que moi j'aime
comme
ça,
dans...
ouais.
Comme la synchronisation de lecture de tes séries.
Voilà.
Bon, ça existe ailleurs que chez Apple, mais c'est vrai que c'est tellement transparent qu'on se dit, on se rend même plus compte que, ah oui, on a commencé à lire un livre.
Les podcasts,
sur
c'est ça.
Ouais. Ouais, les podcasts, enfin, tout est synchro. Et je trouverais ça vraiment hyper intéressant de trouver cette fameuse liste. J'ai commencé à faire une liste, mais je pense que j'ai pas tout et ça me titille cette histoire-là. Il faut vraiment que je trouve ça.
Ben moi, je vais rajouter les fichiers. On n'en a pas parlé, mais les fichiers, quand on vous avez un bon espace, un bon forfait, je dirais, iCloud, ça devient intéressant de pouvoir tout synchroniser, le Mac, l'iPad et l'iPhone, si vous êtes tous dans l'écosystème, et de retrouver toujours les fichiers dans les dossiers indépendamment de l'appareil. Et ça, moi, je trouve ça juste génial. Les photos aussi, on a pensé les photos, Audrey, mais les photos, c'est juste parfait d'avoir iCloud, d'avoir un gros forfait pour plus avoir à se casser la tête à retrouver ses photos. Ils sont toujours partout dans son nuage. En fait, ce qu'on dit là, c'est une vérité en soi qui vient avec le cloud, mais que ce soit aussi bien intégré avec... ça a été long, hein, c'est pas les meilleurs mais au niveau du cloud, mais ça a été long au niveau d'Apple. Puis là, on arrive à quelque chose d'assez abouti. Fait que la synchronisation, je suis 100 000 à l'heure avec toi. Moi, l'élément que j'avais inscrit, c'est assez récent comme fonctionnalité et tous les jours, je l'utilise sans m'en rendre compte aussi. C'est une autre genre de synchronisation. En fait, c'est quand j'ai mes AirPods Pro et que j'ai mon iPhone, alors je mets mes AirPods Pro, j'ouvre mon iPhone, automatiquement, le son va sortir dans mes AirPods Pro. Bon, c'est correct si vous dites que... si on part du principe que je l'avais synchronisé. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est si je prends mes AirPods et que j'ai ouvert mon iPad, automatiquement, ils vont se configurer sur l'iPad. Pareil pour l'Apple Télé, pareil pour le Mac. Alors, c'est une fonctionnalité qui vient d'arriver, qui fait qu'on n'a pas besoin toujours d'aller dans le Bluetooth, configurer et ainsi de suite les AirPods.
Ah oui.
Et là, c'est vraiment, c'est transparent, vraiment. Là, il y a des petits accros, mais pour pouvoir synchroniser ses écouteurs, moi, je trouve ça juste génial d'avoir des AirPods Pro. Tout dépendant de l'écran que j'ai, il va se connecter automatiquement. Fait que ça, moi, c'est juste parfait.
Alors, on voit aussi, je profite de parler de ça, parce que je voulais en parler tout à l'heure par rapport au HomePod mini. Parfois, tu sais, quand tu tapes, enfin, je sais pas si t'en as un, mais on tapote dessus pour remettre la lecture de musique en route, et on ne sait pas d'où vient la source. Ça fait plusieurs fois que ça me le fait. Je regarde sur mon Mac, il n'y a pas de lecture en route, je regarde sur mon iPhone non plus, sur mon iPad, il n'y a pas de musique, donc c'est pas là, et... je sais pas des fois où il va chercher en fait sa musique, donc ça c'est aussi bon. Je l'ai que depuis quelques jours, donc il faut que j'exploite ça. Mais est-ce que justement tu dis que c'est une fonctionnalité récente, c'est pour ça je pense que vraiment les HomePod Mini auront un potentiel, ils ont vraiment un potentiel d'amélioration assez important, je trouve, pour justement fluidifier tout ça et avoir le même niveau de qualité que ce que tu vis là avec tes AirPods Pro. Et les AirPods Pro, ça fait combien? Ça fait 2 ans qu'ils existent?
J'irais peut-être un petit peu plus. Il faudrait aller dans notre outil là, pour le dire. Mais
parce que du coup, on se rend compte que ça évolue quand même, qu'il faut du temps pour que ça évolue. D'ailleurs, est-ce que ça marche aussi avec ton Mac ou c'est une prochaine mise à jour?
Je mets jamais mes AirPods parce que c'est toujours un peu pénible la visio avec des AirPods. AirPod Pro, AirPod ou tout appareil Bluetooth, pour moi, je trouve que c'est assez mauvais. Fait que je sais que ça marche tous les jours avec mon iPhone, mon iPad et mon Apple Télé. Je m'avance en disant le Mac, j'imagine que oui. Je pense que oui. Mais vous nous le direz dans les notes. Si je me suis trompé, ça va faire plaisir de me rectifier. On a encore du papier, Audrey. On a encore du papier. Il y a encore des choses qui fonctionnent en papier, même après la pandémie ou même pendant la pandémie. Puis là, ben, une de tes fonctions que t'aimes beaucoup, c'est AirPrint.
Alors, c'est une fonction que j'aime beaucoup, surtout chez mes clients.
Ouais.
Parce que quand ils me demandent, je voudrais acheter une imprimante, qu'est-ce que vous me conseillez? Alors là, je dirige forcément, en général, vers une imprimante Brother et un modèle AirPrint.
Ouais.
Je vais expliquer ce que c'est après. Mais en tout cas, oui, il y a encore des gens qui ont besoin du papier, qui ont besoin d'imprimer des choses. Donc, c'est génial pour moi. Moi, je fais de la formation, mais si tu veux, tu as toujours des clients qui vont te dire, ben, j'ai acheté ça, est-ce que vous pouvez me l'installer? C'est pas trop mon job, normalement, mais bon, j'essaye de faire plaisir et puis de rendre service. Et quand c'est pas une imprimante AirPrint, que c'est juste une imprimante Wi-Fi et qu'ils ont juste un iPad, parfois, c'est galère à configurer pour connecter leur imprimante sur leur réseau Wi-Fi. S'il n'y a pas une app prévue pour ça, ça peut être galère, ça peut prendre du temps. Donc, AirPrint, en fait, c'est un protocole lié à l'impression qu'Apple a mis à disposition des fabricants. Et ça permet tout simplement de faire communiquer en direct des produits Apple, donc Mac, iPhone, iPad, avec une imprimante, sans avoir besoin d'installer des pilotes, puisque tout est pris en charge par AirPrint. Donc en fait, vous sortez votre imprimante toute neuve du carton, vous la branchez, le Mac, vous allez dans les préférences système imprimante et vous cherchez les imprimantes qui peut détecter localement, et il détecte tout de suite la AirPrint, et vous cliquez dessus et elle est installée. Mmh. Donc c'est vraiment en termes de... Pour tous les gens qui ont installé des imprimantes, beaucoup, les techniciens, comme moi j'ai été à une époque, c'est parfois une vraie galère. Donc là, AirPrint, mais pareil, c'est du velours, quoi. Ça marche très bien, vous pouvez imprimer depuis l'iPhone, depuis l'iPad, depuis
ouais,
le Mac. C'est génial, quoi.
Je t'avoue que l'élément le plus vendeur, quand je parle d'AirPrint, moi, de mon côté, dans ma famille ou mes amis, c'est de pouvoir imprimer avec un iPhone, c'est de pouvoir imprimer avec un iPad. Dans mon entourage, il y a des gens qui n'utilisent plus ou quasiment plus d'ordinateurs, mais ils ont encore ce besoin d'imprimer. Hein. Il y a des factures, il y a des impôts, il y a des papiers quand même importants qu'il faut encore imprimer, puis... Pour cette fonctionnalité-là, on pouvait pas se passer vraiment d'un ordinateur parce qu'il y a imprime. Par défaut, c'est beaucoup plus compatible avec un ordinateur et une imprimante qu'avec un appareil mobile. Ben, AirPrint est vraiment le truc qui facilite la vente des imprimantes. Ils sont parfois un petit peu plus chers, par contre. Faut valider ça. Mais c'est quand même accessible. Quand je dis plus cher, là, c'est quelques euros, pas des dizaines ou des centaines.
Oui, et puis c'est surtout qu'en fait, je pense que Apple fera toujours un maintien de sa technologie AirPrint.
Voilà, c'est ça.
Contrairement à des fabricants qui, au bout de 2-3 ans, l'application avec laquelle on imprimait ou avec laquelle on configurait l'imprimante n'existe plus. Et là, on se retrouve avec un produit qui est totalement inerte, comme mon enceinte que je parlais tout à l'heure, l'enceinte Philips, là, AirPlay. C'est qu'à un moment, t'as plus l'application pour le configurer, donc tu ne peux plus utiliser ton produit. Enfin, c'est quand même aberrant. Donc, moi, c'est clair que là, tu vois, pour la domotique, on parlait de HomeKit. Donc, HomeKit, c'est pareil, c'est un protocole d'Apple pour les objets connectés. C'est pareil, je me dis, si c'est un protocole Apple, ça me donne quand même une garantie à long terme de pouvoir utiliser mes produits.
Ouais, t'as raison.
Ils vont pas, du jour au lendemain, dire, non, on fait plus le support de AirPrint, jetez vos imprimantes, quoi.
Ouais.
Donc, voilà un bon point.
End of, tu l'as mis, moi aussi, on en parle, End of, c'est ce qui me permet, à partir de mon Mac, exemple, de commencer un email, de commencer une navigation sur Internet, sur mon iPhone, de m'installer sur mon Mac et de reprendre cette navigation-là sur mon Mac. C'est ce qui me permet de pouvoir avoir une espèce de continuité dans mes usages. Et moi j'adore beaucoup, je kiffe à fond cette fonctionnalité-là, de pouvoir commencer un message et de le terminer sur mon Mac sans avoir envoyé ou fait des transferts quelconques. Magiquement, vous voyez l'icône de Safari apparaître avec un petit icône de téléphone ou d'iPad dans le coin à droite, et là vous cliquez et vous continuez votre session de travail ou ce que vous faisiez. Moi, j'aime vraiment vraiment End of.
Ouais. Ben, tout ce qui est service de continuité, Apple l'appelle comme ça, hein, c'est continuité, donc okay. Il y a End of dedans, et c'est clair que End of, c'est... Alors, c'est vrai que moi, je trouve ça génial, je l'utilise pas trop souvent, Sauf quand, par exemple, je commence à rédiger un mail sur mon iPhone et que je me dis, ah non, mince, la pièce jointe que je vais envoyer, elle est sur mon Mac, donc je remonte à mon bureau et je reprends comme ça. Donc ça, c'est en effet hyper pratique. Je l'utilise pas forcément tous les jours, mais elle est vraiment la bienvenue dans notre quotidien et quand on a plusieurs produits Apple. Donc c'est chouette.
Ouais, c'est encore une fois une petite fonctionnalité qui est transparente puis qu'on prend pour acquis, mais c'est vraiment un produit vraiment vraiment chouette. Toi, évidemment, on parlait d'HomeKit. T'as ajouté HomeKit dans les notes de l'émission. Je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai utilisé plusieurs applications de domotique. Tu sais, je vous ai parlé de Meros tantôt, j'ai Globe, j'ai Philips Hue, j'ai quelques autres applications en fonction des produits que j'ai testés, et ben il y a pas photo quand même au niveau de l'application HomeKit que vous avez que sur Mac, macOS, iMac, ben pas iMac mais macOS, iOS, iPadOS, ben elle est bien faite. Fait que Tout ce qui est HomeKit, l'application est bien faite. Puis je vous dirais, j'irai peut-être un petit peu plus loin, quand vous prenez un produit qui est marqué HomeKit avec le logo HomeKit, la petite maison jaune, vous avez une certaine assurance que c'est beaucoup plus qualitatif sur les normes de sécurité. Je m'avance, mais je pense que je suis pas trop loin de la sécurité. Je suis pas trop loin de la vérité. C'est qualitatif sur la sécurité, puis c'est de facto assez compatible dans plusieurs standards. Quand vous allez dans la domotique, il y a une quantité phénoménale de standards et on n'y comprend plus rien.
C'est l'enfer.
On n'y comprend rien. Ouais.
C'est l'enfer entre les labels, entre les ponts, les concentrateurs. C'est vraiment un univers complètement à part. Moi, je commence juste à m'y mettre. Et comme je disais tout à l'heure, de toute façon, là, j'ai posé une question ce matin sur Twitter. J'ai eu plein de réponses et je comprenais pas la moitié des réponses parce que pour les gens qui s'y connaissent, c'est tellement simple. Et tu vois, c'est ça que j'adore dans l'informatique, c'est qu'on peut n'importe quel moment redevenir un débutant et donc on peut se poser toutes les questions qu'un débutant se pose. Et c'est ça que j'aime bien dans le métier de la formation en général, c'est que à tout moment on peut entamer un nouveau
parcours,
une nouvelle matière, j'ai envie de dire, une nouvelle activité et se retrouver ben comme un débutant avec plein de questions en n'arrivant pas à démêler le faux du vrai. Enfin voilà, c'est génial. Et HomeKit, je vais commencer. De toute façon, on en reparlera certainement. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est un HomeKit est disponible dans, je sais pas si t'as CarPlay dans ta voiture? Parce que moi, je l'ai pas. Et je me demandais si on avait un bouton Home, l'application maison, en fait, sur CarPlay.
Ben, écoute, tu m'offres une transition sur CarPlay. Moi, les dernières fois, je l'ai utilisé, CarPlay, puis ça fait partie des fonctionnalités que j'aimerais avoir, que je trouve juste magnifique dans un véhicule d'avoir. J'avais pas vu HomeKit. Mais par contre, évidemment, vu que t'as Siri, tu peux déclencher des choses de HomeKit, hein, tout ça se parle. Alors avec CarPlay, tu vas demander à Siri d'allumer les lumières du salon par exemple à l'avance ou de régler la température et ça va fonctionner. Dans CarPlay, ça fait un lien avec ce que je voulais dire. CarPlay est vraiment une belle fonctionnalité que j'ai découvert avec des véhicules de location parce que j'ai pas encore changé mon appareil dans mon véhicule, mais c'est vraiment un truc vraiment bien fait pour ce qui est tout ce qui est cartographie, bien intégré. Et on le sait, hein, quand on achète un véhicule, l'interface, je dirais, tout ce qui est multimédia, carte, elles sont à jour le jour où vous achetez votre véhicule, puis après ça, le manufacturier il s'en fiche. Et bien souvent, les interfaces sont, on va le dire, hein, c'est assez moyen. Moi.
Moche.
Ouais, j'ai vu des interfaces.
Mais ça, c'est marrant. Tu vois, dans la pensée du mois, j'ai mis Apple Car, donc la voiture Apple, et j'ai préparé un petit truc là-dessus, sur ma réflexion à ce sujet-là. Et en effet, je pense qu'Apple a une place à jouer assez importante à ce niveau-là. Donc, ouais, on va en parler tout à l'heure. Tu as marqué configuration de nouveaux appareils.
Ouais, ça, tu vois, c'est un truc que ma sœur a... a testé dernièrement, puis a fait, c'est donc bien simple de configurer les appareils Apple. Ben oui, c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Quand tu as un iPhone, puis que tu as déjà eu un iPhone, soit tu prends la configuration à partir de l'autre appareil, hein, tu as fait des vidéos là d'ailleurs là-dessus. Bref, tout ce qui est configuration d'appareil Apple, je trouve ça excessivement simple. Si on se compare, par exemple, à un ordinateur, où tu sais, faut réinstaller plein de trucs, c'est un peu pénible. Fait que je trouve que la configuration des appareils est simple, puis l'expérience est simple. Quand on fait un Apple Watch pour la première fois, waouh, c'est stupéfiant. Ton Apple Watch fait une espèce de galaxie, tu le prends en photo avec ton téléphone. Boum, ça se configure tout seul. Ouais. Le HomePod aussi, tu l'as expérimenté dernièrement, ça se fait super vite, super bien.
Ah,
là.
Ouais, le HomePod mini, franchement, bah, dans la vidéo que j'ai postée hier, là, justement, tu mets ton iPhone à côté, et puis tu réponds à 3 questions, et ça y est, c'est fait, on n'en parle plus, t'y passes plus. En fait, je pense que pour les plus jeunes, les utilisateurs les plus jeunes aujourd'hui doivent trouver ça normal.
Ouais.
Nous qui avons connu des galères pas possibles pour configurer des choses, comme je parlais tout à l'heure des imprimantes.
Ouais, c'est vrai.
On a connu tellement de galères en informatique que tout était compliqué pour configurer tel ou tel produit que Apple, en fait, nous, on trouve ça miraculeux presque. On déballe un produit, on met notre iPhone à côté, paf, c'est fait. Et voilà, bonsoir, et puis on écoute de la musique, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est aussi enthousiaste et aussi comme des gosses, là, avec les yeux qui brillent, en se disant c'est génial, c'est magique, merci Apple. Parce qu'on a connu pire.
On a connu la guerre, nous, monsieur. On a connu, ouais, effectivement, t'as bien raison. T'as absolument raison. Note partagée, toi, tout ce qui est note partagée, t'aimes ça? Oui, ben nous, on l'utilise hein, pour Apple différemment. On est dans Apple Notes et on partage nos notes.
Bah oui, par exemple là, donc Mathieu est au Canada, moi je suis en France. On a une note partagée par épisode. Et là, en fait, donc vous pouvez pas le voir, mais je vais vous le dire, on avait listé chacun de notre côté sur cette même note, donc sur cette note partagée, nos fonctions préférées Apple. Et puis, au fur et à mesure qu'on en boucle une, bah moi je raye, je barre ma phrase, et puis Mathieu fait pareil, et on voit en temps réel ce que l'autre fait sur cette note. Et moi, je trouve ça vraiment magique. Avec ma compagne, on en a, j'en sais rien, bah tu vois, je regarde, on en a 11 partagés. Parce qu'ça nous permet en fait de nous décharger déjà mentalement de tout ce qu'on veut faire dans la maison, par exemple dans le jardin. Là, c'est bientôt l'heure de faire les semis pour le potager et tout, donc on a fait une note, cette année on fait ça, une note partagée, pareil pour la liste des courses. Enfin, les notes partagées, franchement, je trouve ça génial, vraiment génial. T'es en train de faire tes courses, ta compagne qui est chez elle, elle ajoute un truc de dernière minute, ben hop, ça apparaît.
Ouais.
C'est génial.
Ouais.
C'est génial.
Tu vois ce que tu viens de dire là? Je le fais avec ma compagne, ma copine, c'est exactement ça. Elle sait où je suis. Et puis elle ajoute en fonction de là où je suis ce qu'il faut avoir. Évidemment, on parle de notes partagées comme des tâches. Il y a aussi l'application tâches hein, que vous pouvez avoir ou vous pouvez faire des listes de notes. Mais moi, j'utilise vraiment Apple Notes avec les cases à cocher pour des listes d'épicerie, des listes d'achats, des listes de choses comme ça. Je l'utilise comme ça. J'utilise aussi les notes partagées pour les factures. Tu sais, toutes ces factures où on a des garanties. Nous on les scanne avec l'application puis on la partage, ce qui fait que quand une personne on veut revoir un manuel, on veut revoir un truc, une garantie quelconque, ben les papiers importants on les met puis on les partage. Les travaux des enfants aussi, il y a des travaux des dessins des enfants, on les partage là-dedans aussi dans Apple Notes. Vraiment 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 une application super. Puis évidemment on parle de famille, de partage. Le plan familial d'Apple est juste phénoménal. Moi, ça fait partie des fonctionnalités que j'adore. Partager mon Apple One Premium, d'avoir la musique partagée, d'avoir mon plan d'Apple TV Plus partagé, d'avoir tous ces trucs-là partagés. On paye à un endroit. Le stockage, tout, bref, c'est vraiment bien fait. J'imagine qu'il y a ça aussi chez Google, mais chez Apple, en tous les cas, moi, je fais juste comme être content à chaque mois de payer ma facture et de pas avoir à aller installer ça ou configurer ça chez la famille. Je suis vraiment juste content. Fait que, ouais, moi, plan familial. Et puis, sur un autre ordre d'idée, on parlait de partage familial. Tout ce qui est plan, je trouve que ça s'est vachement bien amélioré dans les dernières années, même les deux dernières années. Plan, l'application Plan est vraiment chouette. Puis envoyer des itinéraires, hein, toujours la même affaire, envoyer un itinéraire, un emplacement de quelque chose à quelqu'un à partir de l'Apple Watch ou ça c'est vraiment des fonctionnalités que j'aime. Puis c'est des petits bonheurs, des petits plaisirs qu'on se fait, mais qui nous sauve du temps, qui nous sauve des choses à expliquer. Fait que bref. J'espère que vous avez aimé nos fonctionnalités, les fonctions. J'espère que vous en avez découvert surtout. N'hésitez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de ces fonctionnalités-là qui se retrouvent sur la chaîne d'Audrey. Il y a beaucoup, beaucoup de ces éléments-là qui sont dans la chaîne d'Audrey. Alors, n'hésitez pas à aller fouiller sur sa chaîne YouTube. Mot de rejeté avec les clés de recherche. Il y a beaucoup d'éléments dont on a parlé qui se retrouvent là-dedans. Il y a aussi des livres qu'Audrey a écrits. Alors, n'hésitez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources qui sont disponibles, gratuites ou payantes, mais quand c'est payant, c'est pas très, très cher de toute façon.
Oui, ou même les articles disponibles sur... Enfin, comme j'écris des articles pour ma génération, il y en a qui sont en premium où il faut être abonné, mais il y a aussi pas mal qui sont en accès libre, et on peut apprendre vraiment plein de trucs. Et c'est ça, en fait, c'est vrai que le rôle de ma chaîne YouTube, c'était ça, c'est de dire, mais utilisez vos appareils à fond, parce qu'il y a plein de trucs à découvrir, et c'est génial, quoi. Et on en apprend tous les jours, moi aussi, toi aussi, enfin, c'est ça qui est bien, quoi, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer.
Non, c'est ça, puis il y a des fois, moi je vois deux axes là-dedans, tu as un gain de productivité, ça c'est clair, il y a des choses que tu n'auras pas à te taper, parce que si tu connais la fonction, ben tu vas pas travailler en double ou en triple pour faire certains trucs. Puis l'autre aspect aussi, ben c'est un gain monétaire. Il y a des fois des applications qu'on achète, mais on l'avait nativement la fonctionnalité. Mmh. Fait que fouiller dans vos appareils. Tu vois, dernièrement, hier, j'ai transféré des photos avec AirDrop sur mon Mac. C'est des photos en HEIC. C'est le nouveau format d'Apple pour les photos, pour optimiser la qualité puis le poids des photos. Puis là, fallait que je les convertisse en batch. Mon premier réflexe a été, je vais aller sur l'Apple Store, puis je vais chercher convertisseur en massif de photos. Puis après ça, j'ai trouvé qu'il y avait cette fonctionnalité-là nativement. Fait qu'il y a une quantité incroyable de trucs que vous avez déjà payé à travers vos appareils.
Ouais. Ben oui, parce que le prix de l'appareil, d'ailleurs, on en parlait sur Twitter au sujet des trousseaux, je crois, des gestionnaires de mots de passe. Et je te disais, en effet, le prix de l'iPhone, ce n'est pas que le prix des matériaux qui ont servi à construire l'iPhone. Dans ce prix, il y a toutes ces fonctionnalités-là. Encore, il y en a encore plus. Il y a l'OS, il y a les mises à jour pendant X années. Et c'est vrai que quand on utilise pas tout le potentiel, mais une grosse partie du potentiel de ces produits Apple, on relativise quant au prix, en se disant, en fait, vu tout ce que je peux faire, c'est pas de l'argent foutu par les fenêtres, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et tu vois, le gestionnaire de mots de passe intégré, alors certes, pour l'instant, utilisable uniquement sur des produits Apple, donc c'est ça qui embête certaines personnes qui sont sur Windows, ça, c'est sûr que là, c'était restreint, mais, voilà, le fait de tout ça soit intégré et sans supplément de prix, c'est hyper intéressant parce que toutes les fonctionnalités qu'on a parlé tout à l'heure d'iCloud, hormis les photos, sinon, par exemple, la synchro de tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, la synchro des contacts et tout ça, c'est dans les 5 gigas et je crois qu'il y en a qui sont même pas comptés dans les 5 gigas, c'est vraiment gratos au niveau de la synchro. On a tous aujourd'hui des forfaits... iCloud est un peu plus important parce qu'on synchronise nos photos, mais si on synchronise pas ces photos, ben les 5 gigas sont parfois suffisants.
Oui, tout à fait, tout à fait. Avant d'aller dans la pensée-réflexion, bon, j'avais un peu d'historique Apple, on va le mettre dans le prochain épisode, c'est pas plus grave que ça. J'avais un petit truc intéressant, je pensais à toi quand j'ai vu ce truc-là. Pour ceux qui veulent utiliser leur iPhone pour faire de la vidéo, on sait que la caméra de l'écran la caméra de l'iPhone qui est sur l'écran, en façade de l'écran, est peut-être de moins bonne qualité que les capteurs qu'il y a au dos de l'écran. Mais comment prendre des photos au dos de l'écran ou une vidéo au dos de l'écran si vous vous voyez pas? Pour le cadrage, ça peut être compliqué. Un petit truc que j'ai vu sur Twitter qui est vraiment juste génial. Si vous avez une Apple Watch, vous mettez l'Apple Watch autour de l'écran de l'iPhone et vous verrez dans les notes de l'émission et vous avez un retour écran sur les capteurs du dos de l'écran de l'iPhone. Alors, vous comprenez, vous mettez l'Apple Watch...
C'est dur, ce que tu es en train de décrire.
Ouais, c'est ça. Vous prenez le bracelet de l'Apple Watch, vous glissez dedans l'iPhone et l'écran, vous le mettez au dos de l'iPhone, et là, vous êtes capable de voir avec l'écran de l'Apple Watch les capteurs, en fait, la photo, la restitution visuelle de la photo du dos de l'iPhone. Peux-tu faire mieux que moi, s'il te plaît? Peux-tu m'aider?
Alors, ouais. Alors, en fait, sur votre Apple Watch, vous pouvez piloter l'appareil photo de votre iPhone.
Ah ouais, j'aurais dû dire ça.
Voilà. Donc, vous reportez ce que l'iPhone voit sur l'écran de votre Apple Watch. Ce qui fait que quand vous, en effet, vous, au lieu de mettre votre Apple Watch à votre poignet, vous la mettez autour de votre iPhone, vous allez pouvoir cadrer et avoir un retour vidéo direct grâce à l'écran de l'Apple Watch. C'est très malin. C'est très malin.
Ouais, ouais, vous verrez l'image dans dans les notes de l'émission.
Il faut être parfois une image vaut mille mots et parfois, ouais.
On en est aux réflexions personnelles du mois. Et là, j'étais intrigué depuis quelques minutes quand tu as parlé d'Apple Car. Moi, je sais pas, je suis ambivalent par rapport à l'Apple Car. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'Apple Car?
Ah, j'ai pas de secret industriel à révéler, mais une petite réflexion. Alors peut-être que je me plante complètement, mais c'est un sujet qui m'intrigue parce que je suis abonnée à plein de chaînes YouTube sur les voitures. J'adore ça et je suis vraiment beaucoup les évolutions des voitures électriques, notamment parce que j'aimerais en avoir une un jour, mais il y a plein de choses qui font que je repousse, Et en tout cas, plus je pense à Apple. Et plus je me dis qu'Apple a un rôle à jouer au niveau du système, au niveau de l'OS des voitures. Parce que comme on disait tout à l'heure, chaque fabricant va créer son tableau de bord numérique avec son écran multimédia, mais en général c'est pourri, au bout d'un an on peut plus mettre à jour, enfin c'est pas leur cœur de métier quoi. Tu vois, c'est pas... On sent que c'est des constructeurs de voitures, c'est pas des fabricants de systèmes d'exploitation. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est, tu sais, t'as de la latence, t'appuies sur les boutons, c'est lent, enfin. Donc, pour pallier à ce manque-là, ils ont intégré, Apple CarPlay ou Android Auto. Sur les voitures les plus récentes, tu peux choisir, du coup, en fonction du téléphone que t'as, si tu veux Apple CarPlay ou Android Auto. Et en fait, je me suis dit, je pense pas qu'aujourd'hui Apple a la capacité de construire une voiture tout seul. Parce que construire une voiture, c'est quand même c'est une industrie super lourde. Eux qui sont axés sur l'écologie, comment ils vont avoir un bilan carbone neutre s'ils fabriquent des voitures? Enfin, ça me paraît impossible techniquement. Donc, je sais pas si t'as vu, mais il y a quand même plein de rumeurs comme quoi Apple discute avec des constructeurs et tout ça. Et je pense qu'en fait, Apple va plutôt gérer, enfin proposer aux fabricants un système en fait. Comme un système d'exploitation pour voiture. Et je me disais ça, je me disais peut-être qu'en fait le rôle qu'Apple a joué sur les voitures, c'est peut-être simplement ça, en sachant que si c'est des voitures électriques, ben tout est électronique, tout est dirigé par un système, hein, un système d'exploitation. Donc je me disais peut-être qu'un jour on va acheter une voiture et on va dire ben moi je veux, alors comment on peut appeler ça? Apple Car OS, enfin je sais pas comment on pourrait l'appeler le système, tu ouais. vois. Mais en fait, du coup, ça serait, ça pourrait être le système d'exploitation le plus économique, le plus efficient, le plus, enfin, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Après, je me dis aussi qu'avant qu'Apple fasse des iPhones, on se doutait pas qu'Apple ferait des téléphones un jour. Donc, ils peuvent aussi nous surprendre. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que s'il y a des discussions avec des constructeurs, c'est surtout par rapport au fait qu'Apple, ils sont très bons pour faire des systèmes d'exploitation, comme macOS, iOS, iPadOS, etc. Et je me dis, pourquoi pas un OS pour voiture. Et en plus, comme tout est aujourd'hui à base de code, une voiture électrique répondrait très bien à toutes ces optimisations, comme Tesla. Je pense que ce qui fait aussi l'autonomie de leur voiture, c'est leur système intégré et leur OS. Et d'ailleurs, eux n'intègrent pas CarPlay, donc... Donc voilà, en fait, je sais pas, ça me travaille cette histoire, mais je me dis, si Apple a un rôle à jouer, ça serait peut-être au niveau du système d'exploitation de la voiture, parce qu'en gros, une voiture électrique, c'est quand même un gros ordinateur, quoi. Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est un gros iPhone, une voiture électrique.
Je suis surpris. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis surpris de cette actualité-là. Bon, j'ai été dans le domaine de l'automobile longtemps, j'ai eu un magazine auto, je l'ai revendu. Alors, je connais un petit peu le domaine, j'ai beaucoup d'amis dans le domaine. Faut savoir qu'un véhicule, c'est composé en moyenne de plusieurs dizaines de milliers de pièces. C'est pas comme un Mac, un iPhone. C'est plusieurs fournisseurs. C'est beaucoup, beaucoup d'intégration de composants, hein, des alternateurs, que ça soit. Alors, dans un véhicule à batterie, c'est beaucoup moins. On comprend que, de facto, quand on parle d'un véhicule électrique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pièces. Il en demeure pas moins qu'on a besoin de pneus, on a besoin de vitres, on a besoin de carrosserie, de peinture, on a besoin d'un réseau de réparation, on a besoin de tout cet écosystème-là pour bien faire les choses. Et c'est là où je doute un petit peu d'Apple. Je vais m'expliquer. Ça a été très, très long avant que Apple permette des revendeurs à réparer ou avoir des pièces. Hein. On a entendu dernièrement l'accès aux pièces pour les revendeurs, ça a été assez pénible. Ben là, au niveau de l'automobile, va pas falloir avoir cette philosophie-là. Aussi, d'avoir tout l'écosystème de la revente, la garantie, carrosserie, il faut pas négliger ça, c'est assez compliqué. Tesla, tu l'as mentionné, à certains égards, des fois, c'est un peu pénible. Tu vois qu'au Québec, il y a certains véhicules Tesla que la peinture, ben ça va pas bien. C'est anecdotique, là, je m'entends, mais je veux dire, il y a quand même des rappels à faire. Alors, ils sont habitués aux rappels, mais ils sont habitués pour des rappels, pour des Mac, ils sont habitués pour des iPhone, des gros véhicules, je sais pas. Par contre, si ils s'allient avec, ben là, les rumeurs, c'était Kia, Hyundai Kia, qui est le même conglomérat automobile. Les rumeurs, c'était qu'ils étaient en pourparlers et puis que peut-être Kia fabriquerait ben, les véhicules Apple. Et puis, ben, Apple ferait probablement, comme tu disais, la partie logicielle, la partie électronique, peut-être, mais assurément la partie logicielle. La rumeur a été bonne. Après ça, ils ont dit non, finalement, ils sont plus en pourparlers. Là, on entend présentement qu'ils sont, mais qu'ils ont extensionné. C'est pas pour rien que la rumeur perdure depuis si longtemps. C'est qu'il faut mettre des éléments, des fondamentaux en place. Le domaine de l'automobile, c'est un domaine qui est là depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont ça à rattraper, hein, du côté. Tesla est juste phénoménal. Ils font ça excessivement rapidement. Ils ont un écosystème de recharge. Ils ont un écosystème de revente. Ils ont des boutiques en ligne. Il y a tous ces aspects-là aussi qu'il faut pas négliger. Alors, est-ce que Apple, je les vois à faire de la vente aux particuliers? Je sais pas. Ils vont arriver, ils vont sûrement arriver, il va sûrement avoir quelque chose. Là où je les vois bien, c'est dans le service. Apple commence à vendre du service, OK? Et puis vendre des véhicules ou de la location de déplacement, tu vois, un truc comme ça, où là je fais...
Ouais, ou un réseau de recharge, ouais.
Ouais, peut-être, mais au niveau du véhicule, moi je les vois plus dans le service de déplacement. Et c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, et je vais te laisser la parole, mais ça me passionne aussi l'automobile, mais il y a quelques semaines, je lisais un article comme de quoi que les véhicules ont, en moyenne, versus le salaire des gens, ont augmenté dans les 10-15 dernières années d'une manière faramineuse. Alors,
c'est très très cher.
C'est très très cher parce que c'est de plus en plus compliqué, parce que c'est beaucoup de technologie, parce que, exemple, dans les batteries, c'est très cher à produire du kilowattheure. Fait que je me vois mal arriver avec une gamme Apple. Tu sais, Apple, c'est pas tout le temps donné dans les produits, là. Je verrais mal Apple arriver avec un véhicule, par exemple, à 100 000 euros, à 100 000 $ du très, très haut de gamme. C'est pour ça que je le vois plus dans vendre du service de déplacement, de la location de déplacement, un truc comme ça, parce que les véhicules vont être trop chers. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Apple puis l'automobile. Moi, j'ai vraiment hâte.
Ouais. Après, tu vois, quand tu parles, alors c'est sûr que c'est pas la même échelle de prix, mais combien ont payé notre Nokia 3110 on le payait 49 euros. Enfin, c'était le prix d'un téléphone, c'était ridicule. Tu vois, quand on avait 15-20 ans, donc il y a 20 ans, c'était ridicule. Après, il y a aussi la location qui est vraiment qui permet d'avoir un véhicule quand même neuf ou d'occasion récente sans sortir 30 000 euros. Tu payes tous les mois et puis tu loues pendant quelques années. Il y a aussi ce que tu disais, c'est vrai que quand Apple t'as un problème avec ton iPhone, bah la plupart du temps ils te le remplacent, ils se posent pas de questions et ouais. Où ils veulent tellement que les clients soient satisfaits, que, alors peut-être qu'il sera réparé, reconditionné et vendu à quelqu'un d'autre, mais toi, ils vont t'en donner un neuf. Là, pour une voiture, c'est clair qu'ils vont pas pouvoir faire ça. Et je pense qu'il faut absolument qu'ils s'associent à un constructeur pour avoir, comme tu disais, un réseau, pour avoir des succursales un peu partout, pour moi, ils excelleraient vraiment en fournissant un système pour voitures complet. Donc je pense que ça serait pour les voitures électriques, hein, clairement, et qui permettrait d'avoir un système avec un tableau de bord numérique, un écran multimédia, enfin que tout soit lié, et puis que bien sûr une intégration complète avec l'iPhone et tout. Enfin, pour moi, ça serait au-delà de CarPlay, quoi. Ça serait un autre niveau, et peut-être une voiture Apple. Apple Kia, mais tu vois, une collaboration, quoi, ou je sais pas, Toyota, enfin.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est lorsque vous allez, un des trésors de guerre par rapport à l'automobile, si Apple y va, lorsqu'Apple va y aller, choisissez ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir. Pour le moment, on est dans la spéculation. Un des trésors de guerre, c'est plan. C'est le système qui a cartographié toutes les rues. C'est le système qui a cartographié les bâtiments. Allez vérifier dans plan. Mettez plan en 3D. En tous les cas, moi, dans mes rues, à moi, ma maison est en 3D. Alors, ils ont bien cartographié les éléments de rue. Ils sont très bien avancés. Ce qui fait que ça va être facilitant pour avoir quelque chose d'intelligent. C'est là que je te rejoins. Ils ont un rôle à jouer, ils ont quelque chose à apporter sur l'expérience automobile, on va l'appeler comme ça. L'expérience automobile est pourrie jusqu'à maintenant. Quand tu embarques dans une Tesla, clin d'œil à mon ami Philippe, quand tu roules dans un véhicule Tesla, déjà tu vois que l'expérience est complètement différente. Et c'est là où je te rejoins, quand tu roules dans un véhicule Tesla, mais faut pas oublier que c'est pas un véhicule, c'est un ordinateur t'as du multimédia, t'as une expérience, c'est complètement différent dans une Tesla. Un jour, j'inviterai mon ami Philippe qui en possède une et qui ne jure que par Tesla. Et d'ailleurs, quand on voit J.D. Power, je pense, ou Car and Driver, qui viennent de sortir les véhicules les plus aimés de tout le marché automobile, t'as tous les modèles Tesla dans le top 10. Alors, il y a quelque chose là qu'on se rend compte qu'il y a une expérience à aller chercher que Apple peut faire.
Et d'ailleurs, dans la dernière mise à jour de plan, tu avais l'intégration des bornes de recharge. Je sais pas si tu te souviens, mais moi, ça m'avait fait tilt. Je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose là. Pourquoi plan intégrerait les bornes de recharge et pas les... Enfin, ils intègrent déjà les boulangeries, mais il y avait vraiment tu peux tracer ton itinéraire et il va te dire, à tel endroit, faut que tu t'arrêtes pour recharger ta voiture électrique. Et puis, tu feras un autre arrêt dans 200 ou 300 km et tu peux faire tout ton itinéraire comme ça avec les bornes. Je sais pas, j'ai pas de voiture électrique, mais... C'est ce que Apple avait promis, hein. Je sais pas si en vrai ça marche super bien. Mais voilà, je pense que petit à petit l'idée fait son chemin et je trouve ça intéressant d'en parler parce que peut-être qu'un jour on parlera des Mac, des iPhones, des iPads et puis des voitures Apple. Oui. Je sais pas. Mais en tout cas, moi je trouve ça passionnant.
Puis juste pour terminer, t'as raison, il y avait toute tout ce qui est l'écosystème de recharge qui est dans plan maintenant. Et souviens-toi aussi des nouveautés qu'ils ont fait avec BMW. Hein, la clé partageable, il y a quelque chose.
La clé numérique.
Ouais, c'est ça.
Ils commencent à faire leur chemin.
Il y a quelque chose qui s'en vient.
Ils s'incrustent.
Écoute, belle réflexion du mois. Partagez avec nous. Hein, vous pouvez nous laisser un message. D'ailleurs, dans les notes de l'émission, il y a un bouton, il y a un lien pour nous laisser des messages audio.
Laissez-nous des messages audio, c'est cool.
N'hésitez pas à le faire. Dites-nous vos prédictions. Hein, parce que pour le moment, il n'y a pas grand-chose qu'on sait. Alors, c'est le moment de rêver, puis c'est le moment de faire son spécialiste automobile. Moi, pensée, réflexion du mois, je voulais te féliciter, Audrey, solennellement. 25 000 abonnés à ta chaîne, c'est juste phénoménal aussi. Et puis, ça m'a fait penser à une... Parce que je te vois, t'arrêtes pas. Et ça m'a fait penser à cette citation de Anna Pavlova, qui dit « Suivre sans relâche un but ». Voilà le secret du succès. Ça te va comme un gant, cette citation-là, Audrey.
Ah, c'est trop... Mais t'es trop gentil, tu me fais rougir. Écoute, je vis une très belle aventure avec cette chaîne YouTube que j'ai lancée un peu au hasard et sans me dire que ça irait jusque-là. Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire mes tutos. J'ai réservé d'ailleurs une journée dans la semaine pour faire que mes tutos et c'est mon jour préféré. J'aime quand même beaucoup écrire aussi des articles et des livres, mais... Tu vois, t'enregistres, tu mets en ligne, t'as le retour des gens tout de suite, les questions. Enfin, je trouve que YouTube, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est un formidable outil qui permet à tous les passionnés de partager leur leur savoir, leur passion. Et quand ça marche, comme dans mon cas, alors ma chaîne, elle a 3 ans, hein, donc c'est quand même... c'est comme j'ai déjà dit, c'est quand même du travail derrière ça, mais en effet, suivre sans relâche un but, voilà le secret du succès. Et ouais, si on te met pas de bâton dans les roues, c'est cool. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, là, je sens que ma communauté est en train de changer un petit peu.
Okay.
J'ai plus de gens extérieurs qui viennent, j'ai des petits, des pas contents ou des gens qui...
Ah bah ouais.
Tu vois, je sens que ça change un peu, mais ça, c'est normal, il faut que je m'adapte. Parce qu'au début, j'avais que mes petits chouchous, ma petite communauté de gens qui me suivent depuis de 10 ans ou enfin 15 ans que j'étais dans le monde Mac. Donc là, ça s'agrandit un peu, mais je trouve ça tellement génial. En fait, tu vois, tu postes une vidéo, il y a quelqu'un qui te pose une question en commentaire, tu lui réponds et elle ne revient pas que tu réponds. Enfin, je trouve ça très humain, en fait, et très, très valorisant. On a beaucoup de reconnaissance et tout ça, donc c'est génial. Bah, je te remercie en tout cas, parce que depuis le début, tu m'as toujours soutenu et ça m'a toujours motivé à continuer. Donc ça continue sur sa voie. Hein. Peut-être un jour 100 000 abonnés, on ne sait pas. Tout est possible maintenant.
Peut-être que tu vas recevoir un jour sur ta chaîne des grandes vedettes là, pour les interroger sur leurs usages d'Apple. Je ne sais pas où ça peut arriver. Mais en tout cas, je suis content et je sais que... dans mon entourage, t'es probablement une des personnes qui poursuit sans relâche ses objectifs. Alors félicitations, tout ce que tu gagnes en ce moment est amplement mérité parce que tu y travailles beaucoup beaucoup. Fait que cette citation là te va très très bien. On va terminer l'enregistrement, Audrey, avec les moyens pour nous rejoindre. Dis-nous où on peut te rejoindre pour justement connaître ton adresse de ta chaîne pour te poser des questions. Là, on fait pas du SAV avec Audrey, on fait juste dire bonjour, comment ça va, j'apprécie ta chaîne. On fait des affaires comme ça. Ouais, c'est ça. On fait du complément.
Alors, vous pouvez me suivre sur mon compte. Alors, je vais faire une petite précision. Sur mon compte Twitter personnel, @AudreyCoulot. Okay. Si vous voulez suivre uniquement mon actualité Apple, c'est @formationApple. Je le précise parce que cette semaine, j'ai eu quelques altercations, on va dire pas méchantes, mais mon compte @AudreyCoulot, c'est vraiment mon compte perso où j'exprime des points de vue donc personnels, engagés. Je suis pas du genre à taire mes points de vue, donc je les exprime librement. Et ça plaît pas forcément à tout le monde, donc j'ai redirigé gentiment les gens en disant s'il y a que mon actu Apple et mon contenu Apple qui t'intéresse. Eh ben, allez sur mon autre compte Twitter, @formationApple. Et sinon, vous pouvez retrouver tout mon univers sur formationapple.fr. Et toi, Matt? On te suit où?
@profduweb.com, profduweb.com. Vous avez tous les liens qui vont bien. Et sachez-le, je n'ai qu'un compte où je n'ai que mes opinions. Je n'ai pas... c'est pas vrai, j'ai des comptes pour
les potes. C'est ça, c'est là, non, mais c'est là où je te dis que tu sens que les choses changent un peu. Parce que même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, enfin j'ai quoi, 1800 abonnés sur Twitter, c'est quand même une communauté assez active. Et c'est là où tu sens, tu te dis, tiens, est-ce que je vais poster ça? Parce que... est-ce que c'est le bon endroit? Voilà, et tu commences à te poser des questions. Et c'est... Bon, je pense que c'est l'évolution normale, hein, mais c'est assez intéressant. Donc, faut tout de suite séparer les choses comme ça, on est tranquille.
Ben, au chiffre, je t'avouerai que c'est intéressant ta réflexion parce que à la quantité d'abonnés que tu as maintenant, tu fais partie des influenceuses. Est-ce que ça dit influenceuse ou influenceureux? Je sais plus, mais en tout cas.
Je suis pas sûr que je suis. Non, je suis pas une influenceuse. Oui. Moi, je partage juste ce que j'aime et c'est tout, quoi.
Non, mais on se comprend, là. Il y a le terme influenceuse ou influenceur qui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des termes en marketing, là, par rapport à ça, et tu fais partie de ces gammes-là. Je pense que c'était en haut de 10 000. T'es moyenne, grande, un truc comme ça, là. Tu fais partie des bonnes influenceuses et je peux comprendre maintenant que tu te questionnes quand tu postes quelque chose. Et d'ailleurs, je te dirais que faut voir que t'ailles dans tes fondamentaux. Rappelle-toi ce qu'avait dit l'oncle à Spider-Man, un grand pouvoir, grande responsabilité. Hein? Fait que faut faire attention, Audrey. Faut faire attention.
Oui, oui. Et puis quand les gens arrivent et te disent « je voudrais acheter ça, tu recommandes ?» Alors attends, laisse-moi réfléchir.
C'est ça.
Est-ce que je vais te laisser claquer 500 euros? Alors en fait, j'ai pris un parti pris très simple. Si j'ai le produit et que je l'aime, je dis oui. Sinon, je dis je sais pas. Je l'ai pas, je peux pas te dire. En fait, voilà, faut pas avoir peur de dire qu'on sait pas et qu'on va pas recommander quelque chose, même si on en a parlé rapidement, sans être vraiment sûr à 100%, parce que les gens, en fait, prennent vraiment en compte notre point de vue. Et donc, voilà, faut faire attention aux recommandations qu'on peut faire. Et puis, après, tu vois, comme pour ma vidéo sur les HomePod mini, je le dis clairement dans ma vidéo, je suis pas audiophile, j'écoute juste de la musique comme tout le monde ou des séries. Et j'ai renvoyé vers le test de Pepe Garcia. Je sais pas si tu connais.
Oui.
Je pense que si. Lui, c'est vraiment un journaliste spécialisé dans l'audio et la vidéo. Donc, j'ai renvoyé vers sa vidéo où il fait le test des HomePod mini, un vrai test en long, en large, en travers, où il explique tout. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Et je sais pertinemment que je ne serai jamais spécialisé audio vidéo, donc en fait ça me coûte rien de dire je vous renvoie vers cette vidéo, là vous en saurez plus. Je pense qu'on peut tous bien se compléter comme ça et qu'on a tous des qualités pour expliquer certaines choses et puis pour expliquer d'autres choses quoi.
Ouais, et puis c'est tout à ton honneur de dire que tu sais pas. C'est rare hein, que et c'est d'ailleurs très très fascinant. Je préfère travailler avec des gens qui disent je sais pas qu'une personne qui l'invente.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens comme ça. Ouais.
Oui.
Moi, je pose plein de questions bêtes tout le temps. Ouais, mais c'est comme ça que j'ai appris toujours. Donc, j'ai vraiment pas honte de poser des questions idiotes. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais.
Et je pense qu'on va finir sur cette phrase. Elle est magnifique. C'est avec plein de questions idiotes qu'on apprend. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Allez, on vous souhaite un très bon mois de d'avril. Hein. Finalement, vous allez écouter au mois d'avril. Alors, on vous en souhaite un très bon. Et puis, bon, ben, ouais. Peut-être...
Non, un mois de mars, tu veux.
Mars. Ah, oh, si, boulot. Oui, si, mars. Désolé. Très bon mois de mars, tout le monde. Allez, ciao.
Salut. À bientôt. Hey.